Encore une manifestation de la communion que nous avons ensemble, les uns avec les autres. Communion avec Jésus-Christ, comme cela nous a été rappelé. Je suis heureux de participer à cette manifestation. Je dis manifestation, c'est un culte. Mais voilà, je suis très content de participer encore à votre culte ce matin. Merci pour l'accueil. Merci pour, pas simplement l'accueil que je viens de recevoir, mais cet accueil régulier, puisque ce n'est pas la première fois que je viens. Je commence à reconnaître tout un tas de visages, malgré tous les masques. Eh bien, on va commencer tout de suite par l'écoute de la parole. Je vous invite à prier avec moi d'abord. Seigneur, merci parce que tu nous aimes tels que nous sommes. Nous qui avons quelquefois du mal à non seulement comprendre, mais aussi à suivre. Nous avons du mal à nous regarder tels que nous sommes, nous avons du mal à t'aimer aussi quelquefois. Et pourtant, ta grâce est suffisamment grande, suffisamment immense pour que tu nous aimes encore, pour que tu nous parles encore, pour que tu nous relèves encore. Nous comptons sur toi que cette parole que tu nous adresses puisse nous renouveler, nous t'en prions. Au nom de ton Fils Jésus. Amen. Voici donc le passage qui fera l'objet de notre méditation ce matin. Il se trouve dans le deuxième livre des Rois, et c'est la plus grande partie du chapitre 5 que je lis. Donc, Naaman, le chef de l'armée du roi d'Aram, était un homme important aux yeux de son seigneur. Il jouissait d'une grande considération, car c'est par lui que le Seigneur avait donné la victoire à Aram. Mais cet homme, ce vaillant guerrier, était lépreux. Lors d'une expédition, des troupes araméennes avaient ramené captive du pays d'Israël une petite fille. Elle était au service de la femme de Naaman, et elle dit à sa maîtresse, « Oh, si mon maître allait chez le prophète qui est à Samarie, celui-ci le débarrasserait de sa lèpre. » Naaman vint dire à son seigneur, c'est-à-dire au roi, « La jeune fille d'Israël a parlé de telle et telle manière. » Alors le roi d'Aram lui dit, « Vas-y, j'enverrai une lettre au roi d'Israël. » Et il partit en prenant avec lui 10 talents d'argent, 6 000 pièces d'or et 10 vêtements de fête. Il apporta au roi d'Israël la lettre où il était dit, « Avec cette lettre, je t'envoie Naaman, mon serviteur, afin que tu le débarrasses de sa lèpre. » Après avoir lu la lettre, le roi d'Israël déchira ses vêtements et dit, « Suis-je Dieu pour faire mourir et pour faire vivre, qu'il s'adresse ainsi à moi, afin que je débarrasse cet homme de sa lèpre ? Constatez, je vous prie, qu'il me cherche querelle. » Lorsque Élisée, l'homme de Dieu, apprit que le roi d'Israël avait déchiré ses vêtements, il fit dire au roi, « Pourquoi as-tu déchiré tes vêtements? Laisse-le venir chez moi, je te prie, et il saura qu'il y a un prophète en Israël. » Naaman vint avec ses chevaux et son char et s'arrêta à l'entrée de la maison d'Élisée. Élisée envoya un messager lui dire « Va te laver 7 fois dans le Jourdain, ta chair redeviendra pure et tu seras pur. » Naaman s'irrita. Il s'en alla en disant « Je me disais, il sortira et se tiendra devant moi, il invoquera le nom du Seigneur, son Dieu. » Il agitera sa main sur l'endroit malade et débarrassera le lépreux de sa lèpre. Les fleuves de Damas, l'Abana, le Parpar ne valent-ils pas mieux que toutes les eaux d'Israël? Ne pouvais-je pas m'y laver pour devenir pur? Il repartit en fureur. Mais ses serviteurs vinrent lui dire « Si le prophète t'avait demandé quelque chose de difficile, ne l'aurais-tu pas fait ? À plus forte raison s'il te dit « Lave-toi et sois pur !» Il descendit alors et se plongea 7 fois dans le Jourdain, selon la parole de l'homme de Dieu. Alors, sa chair redevint comme celle d'un petit garçon. Il était pur. Il revint vers l'homme de Dieu avec toute sa suite. Lorsqu'il fut arrivé, il se présenta devant lui et dit « Je sais qu'il n'y a pas de Dieu sur toute la terre si ce n'est en Israël. Maintenant, accepte, je te prie, un cadeau de ma part. » Élisée répondit « Par la vie du Seigneur au service duquel je me tiens, je n'accepterai pas. » Naaman insista pour qu'il accepte, mais il refusa. Alors Naaman dit, « Dans ce cas, je te prie qu'on me donne à moi ton serviteur de la terre, quand ton serviteur de la terre, la charge de 2 mulets, car je ne veux plus offrir ni holocauste, ni sacrifice à d'autres dieux qu'au Seigneur. Que le Seigneur cependant me pardonne ceci. Quand mon Seigneur se rend à la maison de Rimmon pour s'y prosterner et qu'il s'appuie sur mon bras, je me prosterne aussi dans la maison de Rimmon. Que le Seigneur me pardonne donc lorsque je me prosternerai dans la maison de Rimmon. » Élisée lui dit, « Va en paix. » Alors, il le quitta. Je crois que je vais avoir besoin de la télécommande. Voilà, merci. Donc, nous allons parler de Naaman, je suppose que vous l'avez compris. Un homme important, c'est le chef de l'armée d'Aram, un héros bien connu, bien vu de son roi, puisqu'il a conduit son pays vers la victoire. Aram, c'est le nom d'un pays où on parlait donc, comme vous imaginez, araméen, une langue très proche de l'hébreu. C'est en fait un autre nom aussi pour désigner la Syrie, même si les frontières diffèrent un peu de celles de la Syrie d'aujourd'hui. Naaman a tout obtenu dans sa vie. Il a réussi sa vie. La victoire, la richesse, l'admiration, les honneurs. Il n'y avait pas encore de Rolex. Tout ceci à propos qu'il est à ceci près qu'il est lépreux. Et on le sait, à l'époque, les maladies de la peau, toutes les maladies de la peau étaient assimilées à la lèpre. Et tout le monde avait peur. C'était une épreuve terrible pour les lépreux qui devaient fuir la société, se confiner. c'était donc un défi permanent à tous les privilèges qu'il avait. Naaman, donc, est fort, riche, puissant, estimé par son roi, mais intouchable, infréquentable et probablement pas très beau à voir. Ironie du sort, le nom qu'il porte vient d'un verbe qui en hébreu veut dire plaire, être agréable, être beau. Naaman le magnifique, on pourrait dire. Dur à porter dans ces conditions. Heureusement, l'histoire finit bien. Et même, elle finit mieux que bien, car en même temps, une autre histoire est racontée. Celle d'une autre guérison, d'une guérison de notre ordre. Celle de la manière dont ce même chef des armées a pu trouver la paix. En effet, Naaman a compris l'essentiel de la foi dans le Dieu d'Israël. Très vite. D'où sa gêne de devoir rester auprès de son roi dans le temple d'une divinité païenne. On s'aperçoit qu'il a compris énormément de choses. L'histoire finit bien. Notre personnage va retrouver la santé et bien plus encore. Mais avant d'en arriver là, il devra suivre un parcours plein de surprises. Et c'est sur ce parcours que je vais m'arrêter ce matin. Au départ, Naaman fait partie de la classe des puissants. Il se déplace avec ses chevaux, son char, avec toute son escorte, des vêtements de fête, des talents d'argent, des milliers de pièces d'or. On a sans doute du mal à imaginer tout ça. Appuyé par la missive très officielle de son roi. Quelque chose d'impressionnant. Naaman est très administratif, il passe par la voie hiérarchique. Le roi d'Aram, son roi, qui en son tour l'oriente vers celui d'Israël, avec le succès que l'on connaît. Naaman, c'est aussi un militaire qui a l'habitude de donner des ordres, qui entend que ça se passe comme il l'ordonne. Et son train de vie de chef de l'armée le confirme dans son caractère. Il attend des actes forts, retentissants. Et puis, son poste dans le haut de la hiérarchie montre qu'il est aussi imbu de sa personne. Il arrive avec 10 vêtements de fête qu'il va emporter avec lui, probablement de fête religieuse. Sa guérison, si guérison il y a, ne doit pas passer inaperçue. Et en plus, il est sûr de son savoir. Pour lui, la guérison doit passer par un acte bien visible. D'ailleurs, il sait à l'avance comment les choses doivent se dérouler. Le prophète devra agiter sa main sur les endroits malades. Le prophète devra faire ce qu'il faut, comme il faut, comme lui l'imagine. Malheureusement, lorsqu'il arrive devant la maison d'Élisée, le prophète ne daigne même pas sortir de sa maison, ne l'accueille pas chez lui, alors qu'il vient de faire un long voyage. Il est accueilli plutôt froidement par un serviteur. Alors, consternation. Et pourquoi aller se tremper dans le Jourdain ? Est-ce qu'il avait fait tout ce trajet pour ça ? On peut comprendre sans doute son sentiment d'être pris pour peu de choses. Et il ne lui reste plus qu'à bouder, et même plus puisqu'il s'hérite. Pourtant, c'est justement à partir de là que quelque chose va changer. il va être obligé d'être plus attentif aux autres. Ça avait déjà commencé d'ailleurs un peu avant avec cette petite fille esclave, étrangère, qui dans le récit n'a même pas de nom. C'est peut-être une manière de souligner que son statut ne lui accordait aucune importance. Il y a eu aussi sa femme, la femme de Naaman, dont le statut était sans doute meilleur que celui de la jeune Israélite, mais dont la condition de femme, qui plus est que femme de son grand général de mari, n'était sans doute pas celle d'égalité. Et ça continue aussi avec ces personnes auprès de qui il faut être attentif. Après avoir pris contact avec les plus puissants, après être arrivé jusque chez un grand prophète, après avoir manifesté une certaine foi quand même, hein, il faut le dire, le chef des armées syriennes va devoir écouter des personnes dont il ne s'attendait pas à dépendre. Au lieu du grand prophète guérisseur dont il pouvait s'attendre à ce qu'il y ait des manifestations avec beaucoup d'effets, d'effets de manche, c'est un simple serviteur qui sort de la maison. Et puis il y a d'autres personnages inférieurs qui ont aussi un rôle à jouer, les serviteurs de Naaman, ceux à qui il donnait des ordres et qui vont à leur tour lui donner des conseils. Le plus puissant sera délivré par les plus petits. Le plus puissant devra accepter les conseils de ses inférieurs hiérarchiques. Ce n'est pas rien. Autre surprise pour Naaman, au lieu de tout un protocole ostentatoire et compliqué, Élisée l'invite à se tremper dans l'eau du Jourdain, sans autre forme de procès. Alors, bien sûr, la mention des 7 fois évoque peut-être un rite particulier à faire, mais qui sans doute n'a rien à voir avec tous les rites, tout ce que les rites orientaux pouvaient requérir. Pas de rite, même le prophète n'est pas là. Et justement, ses serviteurs insistent sur la simplicité de ce que demande Élisée. C'est vrai que quelquefois, plus il y en a à faire, plus c'est rassurant. C'est toujours cette tentation de penser qu'il faut en faire plus pour être sûr d'obtenir quelque chose de la part de Dieu. C'est un peu comme quand on est chez le médecin, on peut avoir du mal à sortir de chez lui sans une ordonnance entre les mains. Eh bien, le plus puissant devra accepter ce chemin d'humilité. Difficile pour un chef des armées, mais c'est pour lui un chemin de foi. Difficile aussi pour ces personnages de second rang ou de troisième rang qui ont dû surmonter leur gêne à parler devant leur supérieur, risquant de se faire rabrouer, ou même parfois leur peur, ou de surmonter quelquefois la rancune des gens qui sont dominés, qui sont frustrés par un chef autoritaire. Il n'empêche que chacun a dû tenir son rôle pour que la guérison de Naaman soit effective. Et je crois qu'on peut le dire ainsi, grâce à Dieu, il n'y a pas eu de maillon manquant dans la chaîne. C'est, mes amis, l'histoire d'une intervention de Dieu dans laquelle les uns et les autres ont vu combien cette intervention est allée à l'opposé de tout ce qu'on pouvait imaginer. Et justement, on n'imagine pas toujours. Je voudrais à présent retenir quelques préjugés qui peuvent nous paralyser à notre tour. Vu du côté de Naaman, les serviteurs, les subalternes, peuvent-ils avoir raison devant le chef, devant le général des armées? Peut-on écouter une petite esclave qui, de surcroît, est étrangère? Les moins brillants ou les moins bruyants auraient-ils moins raison? Question. Autre préjugé, est-ce que Dieu attend de nous des choses forcément difficiles ou compliquées? Ou est-ce qu'il faut faire plus d'efforts pour être entendu de lui? Encore des questions à nous poser régulièrement. Mais il y en a aussi vu du côté des serviteurs. Est-ce que nous sommes trop petits ou trop peu importants pour intervenir auprès de ceux qui sont plus importants, de ceux qui peuvent nous impressionner? Justement, notre récit montre que le dessein de Dieu peut passer par les plus petits. Je crois que nous n'avons pas à nous décourager en nous estimant trop faibles pour jouer notre rôle. Et pour aller plus loin encore, j'ajouterai que dans cette histoire, ce chemin qui va vers la paix, qui va vers une délivrance, ce chemin n'est pas un chemin solitaire. C'est un chemin communautaire. Si Naaman a pu revenir chez lui, guéri et en paix, c'est grâce à de nombreux intervenants qui, tour à tour, ont joué leur rôle. Je crois que nous risquons parfois de perdre de vue que ce que nous sommes aujourd'hui, c'est le résultat de mille et un événements qui ont marqué notre vie, parfois même depuis notre plus petite enfance. C'est grâce à l'aide peut-être ponctuel, peut-être totalement oublié, mais indispensable, d'une ou plusieurs personnes, à tel moment de notre vie. Je crois que c'est un encouragement à ne pas cheminer tout seul. Parce que Dieu place sur notre chemin des personnes qui peuvent contribuer à nos progrès, à nos délivrances. Et parfois des personnes qui, comme pour le cas des serviteurs de Naaman, ne partagent pas le même avis, disent autre chose de différent, disent autre chose qui va à l'inverse de ce que l'on pense. L'unité de l'Église ne réside pas seulement dans la chaleur et l'accueil des plus proches, de ceux qui nous ressemblent, elle se trouve aussi dans la diversité et dans l'écoute des avis différents. Justement, Naaman n'a pu progresser qu'en écoutant des avis différents. Enfin, si chacun doit forcément cheminer pour soi-même, eh bien il doit aussi cheminer pour les autres, surtout dans l'Église. Alors, encore une question. Quel maillon de la chaîne sommes-nous dans le cheminement des autres? Il faut savoir que chaque maillon est important pour l'accomplissement de l'œuvre de Dieu parmi nous. Et chacun des maillons dans l'épreuve tiendra l'autre. Notre fidélité aux activités de l'Église ne profite pas seulement à nous, mais aussi donc aux autres. Nous pouvons sans doute être des Naamans, dans certains cas, mais aussi des serviteurs plus humbles, avec peut-être moins de capacité, comme cette petite esclave, ou les subordonnés de Naaman, mais plus utiles qu'il n'y paraît. On raconte l'histoire d'un jardinier qui se servait d'un vieil arrosoir dont le fond était rouillé, tout rouillé, et perdait de l'eau sur le chemin quand il allait arroser ses fleurs. Alors tout le monde lui disait d'en acheter un autre, mais lui, il tenait, ne voulait pas. Jusqu'au jour où on lui en a offert un tout neuf, qu'il a utilisé. Du coup, les petites fleurs sauvages qui poussaient le long du chemin n'ont plus été arrosées et ont séché. Même un vieil arrosoir, tout rouillé, peut être utile. Alors, nous ne sommes pas forcément des vieux arrosoirs, mais je crois que nous devons aspirer à ce que Dieu nous permette d'apprendre à recevoir des autres et à donner aux autres. C'est une condition importante pour persévérer ensemble dans la foi. Le Seigneur nous y conduira, j'en suis sûr. Amen.
Amen.